Merci à tous d'être présents sur cette présentation qui va être très embrumée et voire même complètement fumeuse sur donc le cloud. Alors le cloud en soi, c'est un mot que on entend beaucoup parler depuis 5 ans, sur lequel il y a une vraie mode à la fois au niveau technique mais surtout commercial. Et en fait, mon rôle à moi va être surtout d'essayer de démêler un petit peu tout ça, et je vous jure que je me suis complètement ennuagé là-dedans. Mais ma première chose que j'ai envie de dire sur le cloud, c'est que même si le mot est récent, en fait, il est présent depuis pratiquement les débuts de l'informatique. En fait, le cloud, c'est principalement la relation entre un gros ordinateur central et des terminaux d'utilisateurs. Ça a toujours existé, c'est quelque chose que l'on maîtrise bien de ce côté-là depuis un sacré bon bout de temps. En soi, c'est le cloud, ce sont des serveurs qui passent par des tuyaux, sauf que maintenant c'est plus des liaisons séries entre des bureaux, maintenant c'est la DSL ou les ondes Wi-Fi, vers des Minitel. Oui, en France on a été précurseur sur le cloud, et je vais vous le montrer. Alors les principes du cloud... En soit, c'est relativement simple, c'est déléguer ces données à un serveur. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça me coûte moins cher que de devoir gérer moi-même ce serveur-là. Ensuite, ce serveur, comme c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper à ma place, il va être toujours disponible. Je n'aurai pas de problème parce que quelqu'un a débranché la prise chez moi, ou parce que il y a de la maintenance à faire, quelqu'un d'autre la fera à ma place. Malheureusement, cela veut dire aussi que c'est un serveur sur lequel je n'ai pas toutes les clés et où je ne sais pas trop ce qu'il se passe derrière. Et le principal problème, c'est que si je ne sais pas trop ce qu'il se passe derrière, ça veut dire que les données que je transmette, que j'accepte qu'elles soient publiques ou que ce sont des données qui sont vraiment personnelles, eh ben, il faut se poser la question, qui c'est qui a accès à ces données et qu'est-ce qu'il va en faire? En soit, l'informatique n'est plus personnel. Alors, je vous avais dit que le cloud, le principe terminal, grand serveur, a toujours existé dans l'informatique. Oui, mais il y a eu une révolution en 1977 avec l'arrivée de l'Apple II. C'était un début de démocratisation d'une informatique qui soit personnelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez la puissance de calcul nécessaire chez vous pour faire des traitements. Par exemple, pour travailler sur un tableur de données, pour en faire par exemple un carnet d'adresses, ou par exemple pour classer, faire votre inventaire si vous êtes une petite entreprise. Et cette informatique-là a été le début vraiment de la démocratisation de l'informatique et des développeurs en chambre. Malheureusement, le problème de cette informatique personnelle, c'est qu'on avait un problème d'échange de données. À l'époque, on utilisait des disquettes où on se transférait par câble les données d'ordinateur à ordinateur. Et on avait un problème, c'est que du coup, à un instant T, on n'avait pas forcément les mêmes données, tout le monde sur lequel on travaillait. Bref, c'était un gros bazar, les données étaient verrouillées vraiment à votre disque dur. Donc il y avait un problème de travail collaboratif là-dessus. À partir de là, justement, ben le cloud, la grande promesse, c'est que vous mettez des données quelque part, elles sont disponibles de manière uniforme et pour toutes les personnes qui sont autorisées et quel que soit le matériel. Bon, je veux dire que je suis une preuve vivante depuis le week-end dernier, mais par exemple, quand on casse son téléphone, eh ben on est bien content de retrouver l'intégralité de son carnet d'adresses et de ses correspondances disponibles, prêtes à être injectées dans un nouveau téléphone. Malheureusement, cela veut dire une chose, ça veut dire qu'on n'a plus d'informatique réellement personnelle. Ça veut dire que votre ordinateur, votre smartphone, ne sont plus en soi directement quelque chose qui vous appartienne, quelque chose de strictement indépendant, mais ils sont des terminaux qui sont reliés à des services qui tournent sur les très gros serveurs et qui ne sont pas disponibles près de chez vous. Alors, rien que pour faire l'expérience... Vous prenez un ordinateur moderne ou vous prenez un smartphone ou une tablette, avec eux c'est encore plus flagrant, vous les débranchez d'Internet et vous regardez ce qui vous reste comme fonction. Et vous verrez que tout d'un coup, les fonctions sont fortement dégradées. C'est-à-dire qu'on en est à un stade où ce sont vraiment des terminaux, ils ont d'abord été conçus pour travailler vis-à-vis à des serveurs de données distants et continuellement avec eux. En fait, je vais être honnête, quand je dis que le cloud a toujours existé, c'est pas complètement vrai. Le cloud, ce qui fait maintenant qu'on en parle énormément, c'est une technologie qui s'appelle la virtualisation. La virtualisation, ça veut dire que on n'a plus des serveurs matériels en SWAT qui prennent une certaine place. Par exemple, typiquement, si on faisait le volume d'une boîte à pizza dans des salles de serveurs, mais on a des serveurs qui tournent sur des machines qui sont beaucoup plus grosses, qui sont capables de faire tourner en tâche de fond des dizaines, voire des centaines de serveurs derrière. Ce qui veut dire que on a des data centers qui leur sont strictement réservés et qui sont disponibles un petit peu partout dans le monde. Et on va voir que la virtualisation permet, par exemple, de rapprocher les données par rapport aux gens, c'est-à-dire plus avoir un serveur à un seul endroit dans le monde, mais à pouvoir les étoiler à travers le monde pour les avoir les plus proches, finalement, des utilisateurs. La virtualisation en SWAT, ce que c'est ? La virtualisation, c'est un concept qui consiste à dire, eh ben, le système d'exploitation d'un ordinateur et tout ce qui tourne par-dessus, que ce soit par exemple un serveur d'email, que cela soit par exemple un client, un logiciel de comptabilité et tout ça, eh ben, ce système d'exploitation va en faire un programme, justement, comme un autre, et il va tourner sur un autre OS. Donc, on peut aligner indépendamment plusieurs programmes, l'un à côté de l'autre, sur un très grand serveur. Ce qui veut dire donc qu'un serveur, une très grande boîte, peut héberger plusieurs petits serveurs avant qui étaient individuels. Le gros avantage, c'est que cette très grande boîte prend beaucoup moins de place que l'ensemble de ces petites boîtes à pizza. Et donc, à partir de là, on a un gain de place dans le data center. On a aussi un immense apport au niveau écologique, puisque on mutualise l'achat du matériel, on mutualise la consommation d'électricité, on n'a pas besoin continuellement d'avoir des serveurs qui tournent en continu, peut-être que certains ont besoin de tourner que par exemple entre 18h et 23h, et d'autres n'ont besoin de travailler que de 9h à 17h. Cela aussi amène beaucoup de choses au niveau de la maintenance et donc sur plein d'autres points, mais du coup, éventuellement, puisque on consomme moins d'électricité et qu'on a besoin de beaucoup moins de matériel, au final, ça coûte beaucoup moins cher. S'il y a une panne technique sur un OS, sur votre serveur, le gros avantage, c'est qu'on peut le redémarrer beaucoup plus vite. On peut même prendre un instantané du système d'exploitation à l'instant T et relancer une instance de votre système d'exploitation tel qu'il était une heure avant de planter en un temps qui est quasiment ridicule par rapport au démarrage d'un vrai ordinateur. Et aussi, on peut le redimensionner. Et alors ça, c'est le grand apport réel du virtuel. Ça veut dire que si, par exemple, vous tenez un blog sur le cinéma, disons que votre blog va faire 1 millier de visiteurs par jour, ce qui est un chiffre très honorable, mais qu'au moment où il y a 3 blockbusters et le festival de Cannes qui a lieu en mai, eh ben vous vous retrouvez avec 1 million de visiteurs uniques par jour. Si c'était un serveur physique, il serait très vite encombré. Là, dans une machine virtuelle, l'immense avantage, c'est qu'on peut dire que on ne loue toute l'année que très peu de CPU et très peu de mémoire, et qu'à la volée, on dise « Ah ben, j'ai pas besoin de 512 mégas de mémoire, je veux 1 giga de mémoire immédiatement, ou 14 gigas, je veux 14 CPU », on redimensionne à la volée, on n'a même pas besoin de redémarrer le serveur. Donc il y a ce qu'on appelle vraiment une scalarité, ce qui est un avantage en termes d'administration qui est énorme. Alors ce qu'on appelle le cloud, en fait, regroupe 3 grandes familles. Et en fait, ces familles-là, c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu parler par les acronymes, mais là, je vais essayer un petit peu de les définir. J'ai dit essayer. Il y a ce qu'on appelle l'infrastructure. Alors, l'infrastructure comme un service, c'est quand on prend un ordinateur et qu'on le virtualise. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste loué le fait que l'ordinateur est virtualisé. À partir de là, la mise en place du système d'exploitation, la mise en place des logiciels qui sont derrière et leur administration sont de votre ressort. C'est une offre que Gandhi fait depuis 2007. OVH fait à peu près depuis la même période. Amazon le fait, c'est ce qu'on appelle la technologie EC2, fait à peu près depuis la même période. Et où, en fait, ben, c'est un peu comme si on louait un serveur matériel, sauf que là, il est virtualisé avec les avantages qu'on puisse changer de taille à la volée, le nombre de CPU, le nombre de disques durs qu'il y a dedans. Alors, l'infrastructure comme un service, c'est une technologie qui parfois est utilisée par des particuliers, par des associations ou des entreprises. La plateforme comme un service est un domaine un petit peu particulier, c'est-à-dire que l'OS n'est plus du ressort du client. On a installé en fait un service qui n'est pas directement utilisable. Par exemple, on va avoir un environnement d'un langage de programmation ou par exemple une base de données. Amazon Web Services propose par exemple RDS. C'est un serveur Postgre, MySQL, etc. C'est un serveur de base de données qui en fait est virtualisé. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous occuper de l'OS. L'administration de ce serveur, c'est eux qui la gèrent. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Par contre, c'est un domaine qui est très spécialisé et qui là est plus dans le cadre de professionnels très bien documentés ou d'entreprises vraiment spécialisées. Et il y a ce qu'on appelle le cloud d'une manière beaucoup plus générale, d'une manière, je vais dire, un petit peu abusive et très réductrice, le cloud comme étant un logiciel comme un service. Alors là, en fait, tout est installé. L'OS, ce n'est plus vous qui le gérez. La plateforme, ce n'est plus vous qui le gérez ou qui le paramétrez. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur un site internet, à vous connecter et à utiliser. Et éventuellement à sortir votre carte bleue. Et encore, je crois que certains services se passent de ce détail oiseux. Pour vous donner des exemples de logiciels comme un service, il y a par exemple des clients d'email, comme Gmail. Il y a par exemple des prestations de blog, comme par exemple WordPress.com ou Overblog, ou CanalBlog. Il y a par exemple des prestations aussi de suites de bureautique, comme par exemple Microsoft Live Office, où en fait avec son navigateur, on a l'équivalent des services Excel ou Word, mais en fait on s'en sert à partir de son navigateur. Il y a des services d'échange de fichiers, par exemple Dropbox, et la Wikipédia en soit, oui, la Wikipédia est un service logiciel. Puisque vous vous connectez sur un service, vous consultez les pages, et si vous voulez l'éditer, ben vous créez un compte, mais en soit, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'administration du serveur et du paramétrage du logiciel. C'est des personnes derrière qui s'en occupent. Alors, pour un utilisateur de logiciel, le cloud a de nombreux avantages. Primo, la seule chose qu'il a à se poser comme question, c'est juste d'avoir un navigateur web et une connectivité. On n'a plus, par exemple, à installer, pour ceux qui, si on reprend la suite Office, ceux qui ont connu l'ère vaillante des disquettes savent que Microsoft Office, à une époque, il fallait une bonne trentaine de disquettes à installer, qu'on n'avait pas les bons drivers, que on n'avait pas forcément assez de mémoire dans son ordinateur et tout ça. Là, la question est transparente. Ça marche dans votre navigateur web, donc le service logiciel, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Il n'y a pas de maintenance, donc ça veut dire qu'on n'a pas à se poser la question de la mise à jour. Quand vous vous connectez par exemple sur Facebook, vous ne posez pas la question si vous utilisez la version 2.36 ou 3.14 de Facebook. Non, vous utilisez une version de Facebook qui est uniforme pour tout un bassin d'utilisateurs. Donc de ce côté-là, il n'y a plus à se poser la question « ai-je bien ?» tous les logiciels qui sont mis à jour sur mon poste. Les mises à jour, du coup, sont totalement transparentes, puisque, en fait, ce n'est qu'une relation client-serveur, et ce sont les personnes qui s'occupent du serveur qui vont mettre à jour les logiciels au lieu que vous ayez à vous en occuper. Le logiciel comme un service a aussi d'immenses avantages quand on est éditeur logiciel. D'abord, on n'a plus de problème de compatibilité. Quand on crée un logiciel, on se posait la question, par exemple, oui, ben c'est vrai, j'ai une version pour Windows, mais j'ai pas une version pour Mac. Oui, j'ai une version pour Windows 95, 98, oui, elle marche pas sur XP. Ou oui, il y a des incompatibilités à cause de tel driver de carte son ou tel driver de carte réseau. Là, on n'a plus à le gérer. On le configure très bien sur son serveur et on n'a plus qu'à déployer. Et ça marche uniformément pour l'ensemble de nos clients ou l'ensemble des utilisateurs. La distribution aussi est simplifiée. Cela veut dire que on n'a plus à avoir une armada de commerciaux qui doivent faire en sorte que vos boîtes en carton, qui font un chouette volume, soient bien présentes dans l'ensemble des rayonnages de toutes les FNAC et toutes les Cultura de France. Tout ça, vous n'avez plus à le faire, vous n'avez plus qu'à communiquer sur un nom de domaine, et vous n'avez plus justement toute la logistique de distribution régionale, de distribution auprès des entreprises à faire, puisque maintenant, tout se fait d'une manière uniforme via Internet. Cela signifie aussi une maintenance beaucoup plus aisée, puisqu'on inclut une version A, une version B, une version C à maintenir pour nos utilisateurs, puisque tout le monde utilise la même version. Donc, on est beaucoup plus tranquille. Ça permet aussi d'embarquer une facturation. Donc, on n'a plus à se dire « Ah ben, j'ai une suite Office pour les étudiants, j'ai une suite Office pour les particuliers, j'ai une suite Office pour les PME, et j'ai une suite Office pour les grands comptes. » Non, finalement, vous n'avez plus à gérer tous ces problèmes qui sont absolument oiseux. Vous le gérez dans votre serveur, vous gérez aussi le système de facturation de carte bleue, puisque vous n'avez plus de commission à laisser à la FNAC ou à Cultura. Donc, de suite, c'est largement plus simple. Et ça veut dire aussi une chose, c'est que s'il n'y a plus de boîte matérielle et que c'est sur vos serveurs, vous n'avez plus de piratage de licence, vous êtes assuré que tous les utilisateurs sur votre serveur sont des utilisateurs légitimes. Alors le cloud en soit, c'est super. Enfin, oui, c'est un service qui est vraiment chouette pour lequel je donne mes données et avec envie. Et comme ça, je peux faire de la glissade sur les trottoirs sans me préoccuper de savoir si je vais tout perdre. Mais en fait, si on prend la toute première version du cloud que je vous ai donnée, la plateforme comme un service, c'est une backdoor, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, vous louez en plateforme un serveur, vous mettez dessus un serveur d'entreprise sur lequel il y a votre compta, mais surtout il y a des documents confidentiels propres à votre entreprise. Vous faites en sorte de ne pas vous faire pirater en instituant des canaux de communication protégés, par exemple du HTTPS ou du SFTP, et théoriquement, personne n'a accès à vos données sinon vous. Eh ben non, puisque comme le logiciel d'exploitation que vous louez tourne dans un autre logiciel d'exploitation, tout est en clair. Ce que stocke en mémoire ou sur disque dur virtuel ce système d'exploitation est lisible par les administrateurs de ces data centers. Donc, forcément, il y a un accès privilégié auquel vous n'avez plus droit et qui est totalement en dehors de votre contrôle. Autre chose aussi qui est importante, c'est que vous relevez de la juridiction des serveurs du pays de votre hébergeur et du siège social de votre hébergeur. Nous sommes des citoyens français, donc a priori, votre principal problème est de respecter la loi française. Mais si par exemple vous utilisez des services d'Amazon, n'oubliez pas que Amazon est une société américaine, donc vous relevez de la juridiction américaine et que ces data centers, pour l'Europe, sont principalement basés à Dublin, donc vous relevez de la juridiction irlandaise. Donc, vous êtes dans un début de complexification assez ardue du droit duquel vous relevez. Alors le problème du cloud, c'est d'avoir le choix. Et comme je l'ai dit, maintenant, nos ordinateurs, nos smartphones sont liés à ces services-là. Et ils sont intrinsèquement liés. Donc, vous n'avez plus ce choix-là et vous n'avez plus cette liberté que procurait auparavant l'informatique personnelle. En fait, on n'achète plus du matériel. Quand vous regardez bien, quand vous achetez un smartphone, quand vous achetez une tablette, vous louez des services intégrés. Et le terminal n'est juste qu'un petit bonus. Si je devais faire, en fait, une comparaison, c'est ni plus ni moins qu'une box ADSL. Et après, vous pouvez effectivement faire tourner des logiciels dessus. Mais vous êtes réellement dans ce qu'on appelle un silo. Un silo, ça veut dire que quand vous achetez un iPhone, vous faites tourner dans iOS, vous faites tourner donc le système de facturation d'Apple, Vous ne pouvez utiliser qu'un seul navigateur, qui est Safari, et vous ne pouvez utiliser des logiciels qui ne sont que ceux distribués par Apple. Idem chez Google, idem chez Microsoft, idem chez BlackBerry. En soit, je préfère ce terme écologique, c'est un écosystème replié, insulaire et autosuffisant. C'est un peu les îles Galapagos ou les Corses. Vous verrez, les Corses, ils essaient de se placer ailleurs, mais ils n'aiment pas qu'on aille se placer chez eux. En soit, le cloud, si je dois faire un jeu de mots, c'est capturer beaucoup de données utilisateurs. Alors, contre ça, heureusement, on a proposé le cloud souverain, on a mis un judoka sur un nuage, magnifique, superbe. Mais le cloud souverain, c'est une vaste blague. C'est un gâchis d'argent public, c'est-à-dire qu'on a débloqué plus de 50 millions pour construire deux opérateurs qui sont soutenus par deux groupes qui étaient complètement en retard sur ces technologies, ce qui veut dire qu'ils concurrençaient Ikula, OVH, Gandhi, qui étaient déjà présents et très performants sur ce terme-là, sur lequel il n'y a aucune spécification solide. Numergy, par exemple, envoie ses emails via une plateforme d'envoi d'emails, une passe. Donc, tous ces emails, à la fois les emails commerciaux, mais par exemple, les emails avec votre crédence, nom d'utilisateur et mot de passe. Sauf que ce service de plateforme était basé sur Amazon, donc vos mots de passe passaient par des entreprises américaines. Je pense qu'il y a mieux quand même comme cloud souverain, tandis que l'autre entreprise est en train de se revendre à des capitaux étrangers. Bref, c'est un concept absolument fumeux et impossible à appliquer, et qui plus est une marque déposée par SFR. Oui, je sais. Autre problème, la concentration des services. Je vous l'ai dit, Amazon a ses principaux serveurs à Dublin, qui arrosent l'Europe. Sauf que c'est arrivé plus d'une fois que les serveurs sautent à Dublin, suite à un orage par exemple, et là, à partir de là, plein de services ne fonctionnent plus. Vimeo, Amazon, Pinterest, GitHub, Expedia, SoundCloud, et toutes les entreprises qui sont basées du coup sur Amazon, n'étaient plus accessibles pour l'Europe. Ça a aussi existé pour l'hébergement matériel, et ça existera toujours, mais cette concentration d'opérateurs rend le problème beaucoup plus grave. La concentration, c'est aussi plus facile à écouter, puisqu'évidemment, on a directement les tuyaux dans ce cas-là. Heureusement, vous pouvez retrouver votre anonymat. Et pour retrouver votre anonymat, il y a une solution qui s'appelle Tor. Tor est un système de proxy distribué entre différents serveurs que vous ne contrôlez pas. Ouais, bon, passons. Heureusement, les services SaaS reposent parfois sur des standards. Gmail, il y a un protocole derrière. Trois protocoles pour la gestion des emails. Et ils les utilisent directement. Facebook, Twitter, Overblog sont des systèmes de blog et ont des systèmes d'export compatibles avec les systèmes de blog comme WordPress ou DotClear. Donc, vous devriez pouvoir avoir le droit de récupérer toutes vos données en une fois, ce qu'on appelle la réversibilité. Si vous avez un protocole standard et que vous pouvez récupérer vos données, eh ben, vous pouvez, à partir de là, devenir votre propre opérateur de service logiciel, devenir votre propre opérateur de cloud. Et c'est justement le cadre de la conférence suivante. Voilà. J'espère que cela vous aura un petit peu dégagé la vue sur la question. Merci.